L'homme sécrète son espace dans ce qu'il sécrète. Il crée dans le fond une sorte de seconde nature qui a des temporalités différentes.
Le mot géographie, il a plus de 20 siècles.
Durant des siècles, ça a été un savoir politique que les géographes, en devenant universitaires, ont un peu trop oublié.
Il y a une chose qui est propre à la géographie, c'est qu'on faisait moitié géographie physique, moitié géographie humaine.
Nos géographies, Dominique Rousset.
Bonsoir à tous, c'est une nouvelle édition de Nos géographies, une intrusion par les cartes et les territoires dans les champs du politique, du social, de l'écologie, des pratiques culturelles aussi, grâce à l'exploration d'une discipline à la fois très ancienne et sans cesse renouvelée, méconnue et même maltraitée, vous diraient certains de ses défenseurs, à laquelle nous voulons faire toute sa place cette année. Nous parlons donc chaque jeudi soir avec nos invités de géographie. Et au pluriel, car elles sont multiples. Pour cette deuxième émission, il sera question de géographie rurale. Attention à cet adjectif trop souvent résumé à la fonction agricole. Il s'applique à tout l'espace organisé par ceux qui vivent hors des villes, ce qui ne veut pas dire contre elles. Comme on va le voir, rural est un adjectif qui qualifie tout ce qui concerne la vie dans les campagnes, son économie, son habitat, ses changements, parfois radicaux. L'adhésion ou l'abandon, c'est donc notre titre, la campagne, rester, partir, revenir. Et nous sommes en compagnie de Pierre-Marie Georges, géographe, bonsoir.
Bonjour.
Co-auteur avec Jean-Benoît Bourron d'un ouvrage « Les territoires ruraux en France » qui nous ont bien servi à préparer cette émission. Enseignant et chercheur également à l'Université Lumière Lyon 2 et au laboratoire d'études rurales. J'ajoute que vous travaillez aussi sur le développement culturel en milieu rural, on va sûrement en parler, sur les stratégies artistiques, c'était votre thèse, hein, sur un fond de mutation sociale donc dans les espaces ruraux. Et puis, Pierre Cornuc, je salue également de Lyon Lumière 2, qui se trouve à Saint-Étienne, dans les studios de France Bleu. Lui est historien, professeur des universités en histoire contemporaine. Et Pierre Cornuc, vous êtes également chercheur pour quelques années à l'INRAE, qui est l'Institut National de la Recherche Agronomique et Environnementale. Et j'ajoute que vous avez travaillé donc sur l'histoire de la géographie rurale. Je précise une première chose, vous êtes tous les deux au même laboratoire, c'est un laboratoire pluridisciplinaire, l'un est historien, on l'a entendu, et l'autre géographe, c'est très significatif, vous y tenez beaucoup.
Oui, je crois qu'il est important de noter que le champ des études rurales a fait partie des tout premiers domaines de la connaissance à s'ouvrir à la pluridisciplinarité et même à développer des formes d'interdisciplinarité. Avec l'idée que pour cerner un objet aussi complexe, aussi protéiforme, il fallait associer plusieurs disciplines et il fallait construire des sciences de terrain capables de dialoguer.
Donc c'était important et vous travaillez donc ensemble, ça vous arrive, avec d'autres disciplines bien sûr, hein, pas seulement histoire et géographie j'imagine, Pierre-Marie-Georges.
Oui, c'est vrai qu'on travaille régulièrement aussi avec le champ des sciences politiques, des sociologues. C'est vrai que c'est une branche de la discipline qui a cessé de renouveler ses objets et qui, de fait, a évolué constamment en regard et en lien avec d'autres disciplines.
Et vous y tenez l'un et l'autre. La ruralité, on va peut-être commencer par quelques définitions, donc objet d'étude de la géographie rurale. C'est un terme qui n'a pas toujours été bien compris ou bien utilisé, non ? Elle pose en tout cas un défi.
En tout cas, le défi, c'est la question de la définition.
Confusion avec le monde agricole, comme je l'ai indiqué.
Alors,
en
bien
titre.
Entendu, j'espère oui. Qu'aujourd'hui, on arrivera à dépasser très largement ce questionnement. La question centrale est de savoir qu'est-ce qui, dans nos modes de vie, définit une forme d'appartenance ou de lien avec un espace rural, puisque on sent bien que la définition statistique et statique de l'espace rural ne correspond pas à l'élargissement du champ des objets de la discipline, et qu'à un moment donné, si la question de la catégorisation spatiale reste importante pour organiser l'aménagement du territoire, c'est une question qui est dépassée par nos modes de vie. Il faut aller plus loin et il faut surtout sortir des schémas de pensée statiques, définis, ce qui fait que dans notre ouvrage avec Jean-Benoît Bourron, on s'est très largement éloigné de l'approche et de la définition de l'INSEE. Et c'est d'ailleurs un des problèmes qui est retenu aujourd'hui par tous les étudiants qui préparent les concours de l'enseignement. Quand on commence une copie, ils sont amenés à réfléchir à la définition du rural.
Alors, quelle est cette définition de l'INSEE, pour le rappeler brièvement ?
Grosso modo, l'INSEE a plusieurs définitions. Il y a le seuil des 2000 habitants agglomérés, il y a le zonage en aire urbaine qui a été modifié en 2010 et qui rejette totalement l'existence d'un monde rural puisqu'il ne définit plus le rural. En somme, c'est une définition qui est basée sur un modèle centre-périphérie où le rural est ce qui n'est pas urbain.
Ah oui,
or,
voilà, ouais.
On sent bien dans nos travaux qu'il y a des caractéristiques, des modes de faire, des pratiques qui renvoient à une essence rurale réelle et qui permet de définir un mode d'appropriation spécifique.
Alors si l'on va un petit peu plus loin, il y a aujourd'hui quand même une dimension politique, hein, vous le notez l'un et l'autre je crois, le monde politique s'empare aussi de ce terme de ruralité, rappelons quand même un ministère de la ruralité, c'était sous la présidence de François Hollande, pas si loin.
Il y a même un secrétariat d'État à la ruralité depuis peu.
Il y a actuellement un secrétariat d'État à la ruralité, des assises de la ruralité, c'était déjà en 2014, et puis parfois le mot de ruralité est brandi aussi comme un trophée récemment pour défendre par exemple la chasse à la glu, ça c'est plus inattendu.
Oui, alors il y a des formes de réappropriation qui témoignent peut-être de l'attractivité des campagnes au sens large. Peut-être qu'on peut lire dans ces formes-là une multiplication des centres d'intérêt tournés vers le monde rural.
Pierre Cornu.
Je trouve intéressant comme historien que les géographes soient sans cesse amenés à se poser la question de la cohérence, de la pertinence des entités spatiales qu'ils étudient. Du point de vue de l'historien, on n'a pas besoin que la ruralité soit une chose figée. Elle ne peut pas l'être dans la longue durée historique. Ce qui intéresse l'historien, c'est est-ce qu'il y a lisible dans les documents qu'il consulte une opposition dans les usages de l'espace à telle ou telle époque? Est-ce que le mot de ruralité, est-ce que le terme de campagne sont mobilisés par quels acteurs? Par les institutions, par les élites, par telle fraction du corps social? Et de fait, il y a peu de termes qui sont révélés aussi plastiques que la notion de ruralité. Effectivement, parce que c'est non seulement un besoin de définition de catégorie spatiale, mais c'est aussi un enjeu politique, c'est un enjeu symbolique, c'est un enjeu de définition de soi et de l'autre.
Ruralité, à ne pas confondre avec ruralisme, pas très joli ruralisme, mais qui s'ancre dans une tradition plus politique. Vous faites une différence, Pierre Cornu, entre ces deux termes?
Ah oui, en quelque sorte. Le ruralisme, c'est l'exaltation de la ruralité avec des arguments de nature idéologique et politique, alors que la ruralité, c'est un état de fait, à un moment donné, dans un espace donné, du rapport des sociétés à leur espace. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais, pour être franc et honnête, même dans le monde des sciences sociales, il y a eu beaucoup de zones d'ombre entre le ruralisme et les études rurales. Et il n'a pas toujours été simple de faire le partage entre une passion pour la ruralité, un intérêt scientifique pour la ruralité, et puis ce qui était des motifs idéologiques de défendre tel espace par rapport à tel autre.
Alors c'est une longue histoire, hein, la géographie rurale, donc celle qui nous intéresse aujourd'hui. Vous avez d'ailleurs, Pierre Cornu, rédigé une thèse sur la déprise massive centrale. Rester, partir, revenir, c'est le moment pour moi d'avouer que je vous ai emprunté ce titre pour notre émission. La géographie rurale en perspective historique a connu bien des crises, bien des périodes de renouveau. Et cette discipline n'a pas toujours été soutenue ou bien comprise. C'est une observation que j'ai faite là depuis que je travaille sur ce thème. J'ai l'impression que vous jugez les uns et les autres que la géographie n'est pas toujours à la place qu'elle mérite.
Si je puis commencer en tant qu'historien, non pas à faire la grande histoire de la géographie, hein, ce n'est pas le lieu, nous n'en avons pas le temps, mais à poser quelques jalons, je crois qu'il est important de dire d'emblée que la géographie, c'est une discipline qui est née sur une prise de risque considérable, d'essayer, dans une époque où les sciences se subdivisaient, se spécialisaient, de maintenir un discours général sur l'homme dans son espace, capable d'intégrer à la fois les caractéristiques physiques de l'espace et les caractéristiques sociales. Et que la géographie n'a cessé de payer le prix de ce pari initial en naviguant d'une centralité académique plutôt assise dans les roches dures du sol, ou au contraire migrant vers une approche plus sociale ou culturelle des rapports des hommes à leur espace, et que donc la géographie a toujours eu un petit peu de peine à dialoguer avec d'autres disciplines ou à rentrer en compétition avec d'autres disciplines, comme par exemple la sociologie ou la science politique, pour penser la société. Parce que justement, elle était dans cette volonté d'aller au-delà du grand partage entre faits de nature et faits de culture, pour essayer de penser dans la modernité comment ces deux ordres de réalité fonctionnaient en système.
Pierre-Marie Georges, sur ce point.
Les réactions actuelle, notamment à la création de votre émission, montre bien une forme d'attachement à la géographie, que ça reste une discipline qui est peut-être méconnue de par son mode d'enseignement dans le secondaire, mais...
Assuré par des historiens, essentiellement.
Assuré par des historiens, ajoute Pierre Cornut.
Mais la géographie, quand elle renvoie à ces questions de rapport à l'espace, est du quotidien, parle à tout le monde. Je crois qu'on est plutôt dans une époque où, malgré les illusions de nos mobilités permanentes, les questions d'ancrage reviennent de plus en plus centrales dans nos modes de vie et qu'elles réhabilitent d'une certaine façon un questionnement sur le rapport à l'espace.
Alors avant d'en venir à la période actuelle, on va reprendre quelques points importants historiques. Alors pour le coup, je reviens vers vous, Pierre Cornut. Après-guerre, déjà, une intégration un peu à marche forcée dans l'économie. On était dans le plan Marshall, on était dans la création de la communauté économique européenne. Il a fallu se fondre un peu dans cette vision-là, qui après a évolué. On va y venir, Pierre Cornut.
Effectivement, le contexte de l'après-guerre est un choc aussi bien pour le monde rural que pour les sciences, le monde académique qui étudiait le monde rural et agricole. Parce que la France est un pays qui est épuisé en 1944-45 par la Grande Dépression des années 30, par les privations et les pillages de l'occupation, par les conditions de la libération. La France a perdu une bonne partie de son cheptel. Ses terres sont pour une partie en jachère, la population est déstabilisée, désorganisée, et on se rend bien compte que dans le nouveau modèle économique qui s'impose en Europe de l'Ouest, la vieille tradition agraire d'une petite paysannerie polyvalente, pluriactive, n'est pas apte à remporter la compétition avec les pays voisins et avec le puissant allié d'outre-Atlantique. Et donc il y a une alliance objective d'une partie du syndicalisme agricole, de l'appareil d'État et d'une partie des sciences sociales pour construire une modernisation à marche forcée. Avec l'idée qu'effectivement, c'est en rationalisant, c'est en mécanisant, c'est en intensifiant qu'on va permettre à cette vieille France rurale de se survivre à elle-même. Et que pour cela, eh bien, il faut sortir d'une conception holiste de l'ordre éternel des champs et qu'il faut agir de manière sectorielle en choisissant bien des acteurs, des productions que l'on va essayer de mettre à niveau d'une compétition économique élargie non plus simplement au territoire national mais à une partie du continent européen et à l'espace transatlantique. Et effectivement, la géographie très rapidement va se trouver embarquée dans l'accompagnement de cette modernisation, mais de la même manière que les sociologues, les économistes, les agronomes, il y a un vaste mouvement d'accompagnement scientifique et technique de la modernisation agricole et rurale à un moment où on confond un petit peu les deux réalités.
Pierre-Marie Georges.
Oui, c'est vrai que cet accompagnement dans la modernisation va engendrer aussi toute la façon de penser l'aménagement du territoire. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui face à 40 années, 50 années, voire plus d'aménagement du territoire qui est pensé par le prisme de cette modernité. Modernité incarnée par la ville et qui a conduit à des formes de pensée de la concentration comme seul outil d'aménagement valable pour organiser la vie des Français.
Oui, bien sûr, ce qui entraîne d'ailleurs une sorte de cliché, le rural devient, non pas ce que vous avez défini tout à l'heure, mais à cette époque-là, en tout cas, quasiment l'ennemi de la modernité pendant une période beaucoup trop longue, car en réalité... Dès les années 70, la fin de l'exode rural intervient.
Oui, alors peut-être pas parler en termes d'ennemis,
Pierre-Marie Georges.
Mais en tout cas, il y a une mise à distance de la réalité du vécu des populations rurales par rapport à l'appareil central, qui va être dans l'incapacité de voir émerger un certain nombre de formes de renouveau. Un des renouveaux qui est assez peu perçu dans cette époque baignée par la modernité ambiante, c'est le retournement démographique qui s'opère dès les années 75. Donc entendons-nous bien, il ne s'agit pas d'un contre-mouvement au mouvement profond d'exode rural, mais en tout cas des signaux faibles qui signalent assez vite que le mouvement de déprise qui a été observé pendant de longues décennies s'arrête et s'inverse jusqu'à gagner aujourd'hui des proportions nouvelles. Et il a fallu attendre l'année dernière pour que le Premier ministre dise lui-même que les campagnes étaient en croissance démographique. Donc la parole politique a mis du temps avant de voir venir ce changement. effectivement.
Oui, c'est assez stupéfiant, d'où la définition de l'Institut National de la Statistique que vous rappeliez. Et finalement, on s'est mis à parler dès cette époque-là, alors qu'en 75, les choses étaient en train de changer. Dès cette époque-là, et pendant de longues années après, on s'est mis à parler du rural simplement en rapport avec ce qui n'est pas l'urbain.
C'est
Pourquoi ? Par fascination pour la métropolisation, par l'urbanisation ?
Pas par fascination, mais en tout cas par mode de pensée d'une forme de rationalisation de l'économie, par la centralité, de nouvelles formes de proximité opérationnelle qui font que la ville, de par sa force attractive, était pensé comme le lieu de déploiement d'une nouvelle économie.
Pierre Cornu.
Je crois qu'il est très important de rappeler que le discours fataliste sur la mort de la terre, il remonte au 19e siècle. L'idée que le monde rural est voué au dépérissement, à l'abandon, à la désertification, il est très ancien en France. Et ce discours de la fatalité, il n'est pas simplement littéraire, il n'est pas simplement poétique et nourri d'un sentiment de déploration ou de nostalgie, il a un sens politique. Quand on a, pendant des décennies, parlé de la mort inéluctable de la Terre, il y avait derrière l'idée que la France évoluait vers un modèle industriel, urbain, de grande puissance continentale et coloniale, qui avait besoin d'une main-d'œuvre industrielle, qui avait besoin de se projeter à l'extérieur, et qu'on n'y pouvait rien, la terre devait céder la place aux nouveaux outils de la puissance. Et on a ainsi nourri à la fois un conservatisme politique teinté de sentiments ruralistes, agrariens, et on a justifié la fatalité de la migration de la main-d'œuvre des campagnes vers les villes. Et ce discours-là, effectivement, il a eu une telle prégnance, une telle force, qu'il est resté comme une petite musique de fond dans le discours politique jusqu'à nos jours. L'idée qu'il y aurait cette fatalité de la déprise rurale est encore profondément ancrée dans les représentations, y compris des populations d'ailleurs. Les discours qu'on entend, c'est « je devais partir, je n'y pouvais rien, c'est comme ça, c'est une fatalité, la ville attire comme la lumière attire les insectes. »
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est instit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, elle a peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y'a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, balade et de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau. La campagne est paumée, on est les oubliés.
France Culture, nos géographies, Dominique Rousset.
On en arrive à cette question du creusement des inégalités. À ce sujet, je voudrais vous faire entendre Benoît Coquart. Il est sociologue, il n'est pas géographe, et il a publié récemment un livre qui a été assez remarqué, « Ceux qui restent ou faire sa vie dans les campagnes en déclin ». Il part donc de ce principe de campagne en déclin. C'est une analyse intéressante parce que, Benoît Coquart, vous êtes en ligne avec nous, bonjour, parce que vous l'avez fait de manière très proche des personnes que vous avez rencontrées. Vous avez même vécu auprès d'elles plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et vous résumez au fond votre entreprise par la volonté de redonner la voix, je cite, à une population victime de méprise, au pluriel, et de mépris. Une belle formule.
Oui, effectivement, en fait, c'est des espaces ruraux en déclin. Il me semble qu'ils ont été un petit peu sous le feu de la rampe, on va dire, ces dernières années, avec deux phénomènes pas forcément positif pour eux. C'était d'un côté la montée du vote Front National dans certains territoires qui étaient assez localisables, et de l'autre côté, régulièrement, une mise en accusation de populations qui seraient fermées sur l'extérieur. Là, on nous expliquait qu'elles étaient relativement peu gouvernables, notamment via le mouvement des Gilets jaunes. À chaque fois, on se retrouvait avec une absence des représentants de ces populations-là et des habitants eux-mêmes dans l'espace public, dans les débats. Du coup, je pense que le livre arrivait à un moment où une enquête ethnographique comme la mienne, elle permettait de redonner la parole à un groupe que Bourdieu, en son temps, aurait qualifié de classe objet, c'est-à-dire qu'elle est parlée, une population qui est parlée par d'autres, mais qui, elle, n'a pas accès à la parole.
Et parlée par d'autres avec des clichés, là on est sur un terrain peut-être plus politique, mais enfin, on les traite volontiers de racistes ou un récit un peu misérabiliste si l'on est de gauche, où on parle d'une France oubliée et méprisée si l'on est de droite. Les deux vous dérangent?
Bah, disons que, en tout cas, dans les deux facettes, de ces représentations-là, qu'on verse vers l'une ou l'autre, dans tous les cas, on se base avant tout sur une distance sociale. C'est-à-dire qu'on en parle comme si, on arrivait vers un autre monde. Et ça, c'est pas nouveau, hein. En fait, dans l'approche des milieux ruraux, et notamment des milieux ruraux à dominante populaire, là où on retrouve une majorité d'ouvriers, d'employés, de petits agriculteurs, on a toujours eu une représentation un petit peu ethnocentrée des villes qui voyaient, selon les époques, une civilisation de jadis appelée à disparaître, ou aujourd'hui, dans la période plus contemporaine, justement, des espaces reculés, un petit peu hors du temps, et qui finalement seraient jamais dans la bonne ligne qui serait à suivre. Là, du coup, c'était un petit peu l'idée aussi de montrer comment vivaient ceux qui restent dans des territoires où, justement, une bonne partie de la population avait été amenée, notamment chez les jeunes générations, à partir en ville parce qu'elle n'avait pas de débouchés sur le marché du travail. Et mon objectif, c'était de montrer que ceux qui restent continuaient, en fait, d'être très impliqués dans des sociabilités intenses, que malgré la disparition des commerces, des cafés, de beaucoup de services publics, se recréaient, en fait, des groupes, des manières aussi de dire nous, et qui avaient des enjeux locaux tout à fait importants pour les personnes qui y vivaient et qu'elles n'avaient pas l'impression, de leur point de vue, de vivre dans des espaces hors du temps. Bien au contraire, c'était justement la ville qui représentait un espace à fuir et peu désirable, et elle valorisait en fait le fait de rester dans ces campagnes en déclin économique.
Deux points. D'abord, ils étaient surpris pour ces scènes sociales, comme vous les appelez, que vous avez voulu mettre en scène, nous raconter. Ils étaient surpris que l'on s'intéresse à eux, mais qui cela va-t-il intéresser? Et puis l'autre chose, vous venez d'en parler, loin de se séparer, ils se retrouvent au contraire, mais au sein d'espaces privés, tout simplement, parce que c'est la fin de la communauté villageoise, et ça n'est pas de leur fait à eux, c'est dû aux fermetures massives des bars, des lieux d'échange. Tout est fermé, disent-ils, et on les accuse de traîner dans les rues, mais que faire d'autre?
Oui, tout à fait, mais là, il y avait encore un cliché qui me semblait important à écailler un tout petit peu, c'était l'idée que dans ces espaces finalement relégués économiquement, on était face à une dynamique individualiste inexorable qui faisait que chacun passait son temps derrière la télé, qu'on ne connaissait plus son voisin ou qu'on avait de la défiance vis-à-vis de lui, alors même que, en fait, quand on regarde concrètement les fréquences, notamment des invitations, des échanges de coups de main, plein de petits signes comme ça, en milieu rural, ils sont très intenses, voire plus intenses que dans bien des villes. De même qu'effectivement, il faut prendre la voiture pour aller quelque part parce que tout est loin, donc on voit moins la population dans les rues, on a l'impression qu'il n'y a plus personne, et l'effet commerce fermé rajoute un petit peu à cette idée de désolation pour celui qui vient de l'extérieur. Mais en fait, les gens vont simplement d'un point à un autre parce que la vie s'est largement étendue au-delà de ce qu'on appelait effectivement avant la communauté villageoise. Donc pour raisonner en termes de scène sociale, de groupes d'interconnaissance, notamment de là où on peut dire qu'on est d'ici ou de là-bas, le ici c'est un espace beaucoup plus large qu'avant, c'est pas le clocher, c'est là où on connaît du monde et là où on est connu et reconnu socialement. Et donc ça va de périmètres de dizaines de kilomètres, et ça correspond aussi au périmètre sur lequel eh ben, on va chercher du travail au quotidien, là où on est prêt à faire 40-50 kilomètres pour aller trouver un emploi, parce que justement on dit que les anciens faisaient tout à vélo, et ça c'est une nostalgie qui est très répandue parmi les jeunes, parce que soi-même on a l'impression de devoir aller de plus en plus loin pour recoller tous les morceaux de sa vie.
C'est là aussi que l'on tisse des liens familiaux, que l'on rencontre souvent son conjoint.
Ah oui, bien sûr, et ça c'est vraiment un signe du temps. C'est des récits que j'ai beaucoup retrouvés, hein, même dans les conversations un petit peu banales du quotidien, où on prend l'exemple de ses parents qui se sont rencontrés au bal du coin ou à l'usine du village, et soi-même, pour son couple, eh ben, on a dû aller dans la boîte de nuit qui est à plus loin, 30 minutes, ou alors on s'est rencontrés via des réseaux beaucoup plus élargis. Et ça redessine le rapport au territoire. D'un côté, on s'autorise à aller de plus en plus loin pour tout ce qui est de la vie quotidienne, mais de l'autre côté, on se sent aussi un peu tenu par cette idée qu'il faut toujours parcourir davantage de kilomètres pour tout ce qui touche, par exemple, à l'éducation des enfants, l'école, les services publics de proximité, ils sont moins en moins de proximité, et bien sûr l'accès à un travail stable. Tout ça nécessite notamment de faire davantage de kilomètres en voiture, et dans le budget des jeunes couples que je rencontrais et que je suivais pendant plusieurs années, c'était souvent la goutte d'essence qui faisait déborder le budget. On s'est endetté pour avoir une maison à la campagne, la propriété individuelle, on y tient beaucoup, c'est d'ailleurs là qu'on reçoit ses amis, sa famille, mais n'empêche qu'il faut mettre de l'essence dans les deux voitures. Et ça, c'était quelque chose, comme on disait avant, qui était très présent dès le début du mouvement des Gilets jaunes et qui renvoyait à des phénomènes assez structurels de comment on a reconstitué aujourd'hui l'espace économique, l'offre d'emploi, comment tout ça s'est regroupé dans des plus grosses structures, avec la disparition des petites entreprises qui pourvoyaient beaucoup de salariés. On se retrouve un petit peu dans des territoires comme ça où la ville proche n'exerce pas une influence directe, c'est-à-dire qu'on c'est ceux qui restent, c'est ceux qui vivent et travaillent là-bas.
Avec un paradoxe, vous l'avez déjà signalé, Paris jamais de la vie, ça vous a souvent été dit, Paris ou ni d'ailleurs aucune grande ville. Le paradoxe, c'est que si on rencontre toutes ces difficultés, on est quand même relativement fier d'être là où on est. On y retrouve une meilleure convivialité, on s'y sent socialement plus reconnu, plus valorisé. Et si les Gilets jaunes ne vous ont pas surpris par leurs revendications, vous venez de le dire, la puissance en revanche du mouvement, leur capacité à se mobiliser et à faire corps vous a agréablement intéressé.
Ce qui était intéressant, c'était de voir comment s'est construit un peu la pérennité de ce mouvement et de voir que dans les secteurs où ça a pu perdurer, on s'est basé sur des réseaux, des modes de sociabilité qui étaient les mêmes que ceux qu'on observait dans la vie quotidienne, c'est-à-dire l'insistance sur le fait d'être entouré de... Moi, j'entendais beaucoup cette rengaine des vrais potes sur qui compter, de considérer des solidarités entre des proches en qui on a toute confiance, et face justement à l'idée d'un discours qui dirait qu'on peut être tous solidaires avec tous, dans des territoires où on sait très bien que notamment l'emploi n'est pas disponible pour tous et tout le temps, et qu'on est en concurrence avec des gens qu'on connaît généralement depuis plusieurs années. Donc cette idée que chacun voit midi à sa porte, mais qu'il faut quand même savoir s'entourer pour s'en sortir, elle est très présente. Elle se résumait dans une expression que j'ai travaillée dans mon livre, qui s'appelle, où les enquêtés disaient « déjà nous » ou « que nous », en parlant en fait de leurs proches et de leurs amis avec lesquels ils étaient très liés. Et on retrouvait un petit peu ces discours-là dans les collectifs de Gilets jaunes que j'ai pu voir, en s'appelant très vite la famille, avec un vocabulaire assez similaire à ça.
Bien, merci beaucoup Benoît Coquart. Je renvoie à votre ouvrage « Ceux qui restent ». C'est une belle étude parce qu'on est très proche effectivement de toute cette population. Merci d'avoir accepté de nous répondre au téléphone.
Merci à vous.
Réaction avec vous Pierre-Marie Georges et Pierre Cornu. Pierre-Marie Georges d'abord.
Ce qui me semble important de souligner d'abord, c'est la richesse de l'approche ethnographique qui est aussi une tradition fortement ancrée dans les études rurales, pour montrer à quel point l'enquête de terrain permet justement de déconstruire un certain nombre de méprises et de mépris, comme le dit Benoît Coquart, pour aller au plus près des gens et étudier ce qui est de l'ordre de leur attachement au territoire. Cet attachement, il se manifeste par des difficultés du quotidien. Il a évoqué la problématique de la mobilité, rappeler que effectivement ça coûte beaucoup plus cher et que c'est cette fameuse goutte d'essence qui a fait déborder le budget lors des manifestations récentes. Mais c'est un attachement aussi qui peut s'incarner par des formes de fierté. Ça rejoindra peut-être ce qu'on dira sur la question culturelle, mais il y a des sentiments d'appartenance qui rendent aujourd'hui leur fierté à ces populations rurales, malgré toutes les difficultés du quotidien et l'éloignement des services.
Pierre Cornu ?
Ce qui me frappe comme historien dans cette question de parler avec ceux qui restent, c'est que c'est une problématique qui a presque 2 siècles maintenant. C'est-à-dire que cette dialectique entre ras des villes et ras des champs, cette relation dissymétrique entre le discours des élites urbaines et les populations qui n'ont pas voix au chapitre, c'est un lieu commun du champ politique en France. Et que on a une profonde ambivalence des attitudes des uns et des autres dans ce dialogue, et que si on regarde dans la longue durée le comportement des populations rurales par rapport aux discours stigmatisants qui sont posés sur elles, on a une forme de ruse, de second degré, de capacité à intérioriser le discours dominant pour le retourner. Et que finalement, je suis pas certain qu'il faille prendre les discours sur soi au premier degré dans les relations entre rats des villes et rats des champs, parce qu'ils sont structurés par plusieurs générations de mise en théâtre de l'opposition et du mépris mutuel du citadin et du rural, et que tout ça a servi dans la longue durée à structurer un imaginaire du rural qui est profondément ambivalent là encore, parce qu'il est à la fois le lieu repoussoir, le lieu dont il faut partir quand on a le talent, la capacité, etc., mais aussi le lieu identitaire, le lieu ressource, le lieu refuge. Le discours sur les restants, sur ceux qui ne prennent pas le chemin de l'exode rural, il remonte au 19e siècle. Et ce discours, il s'est structuré dans une ambivalence fondamentale entre l'idée que ceux qui restaient étaient du côté de la vertu, ils étaient courageux, ils étaient endurants, ils s'accrochaient à leur montagne, ils ne cherchaient pas ni le profit, ni la vie facile. Et puis, petit à petit, de manière plus insidieuse, on a ajouté à ce discours de la valorisation des restants un discours du dénigrement. S'ils ne partent pas, c'est qu'ils n'en ont pas le courage, c'est qu'ils n'en ont pas la capacité, c'est qu'ils n'ont aucun talent à proposer à la ville. Et ça a donné un discours extrêmement anxiogène, un discours qui a généré de profondes souffrances sociales, mais dès la période de l'entre-deux-guerres dans certains territoires et de manière plus massive dans l'après-1945, avec une phrase lancinante qui revenait, que moi j'ai vue dans mes archives et entendue dans mes enquêtes, « Seuls les cons sont restés ». Et ce discours, cette violence de la parole, ça a été un moteur très puissant pour nourrir une immigration de fin de peuplement dans les années 50-60 pour dire « je ne serai pas le dernier des Mohicans, je ne vais pas rester là avec les derniers qui ne savent plus quoi faire de leur journée et d'un espace qui s'est vidé ».
Et pourtant, rappelons-le encore une fois, un tiers des Français aujourd'hui vivent dans des communes de moins de 3000 habitants, je crois, de 3500 habitants, ça fait tout de même plus de 20 millions d'entre nous. Et c'est cette grande erreur, soulignée par Benoît Coquart. Au fond, on a opposé ces territoires gagnants aux territoires perdants. Et puis, en fonction de leur densité, de leur démographie, ce qui était une analyse un peu dépassée. Et avec ce piège, au fond, on ferme les services à faible densité de population. Donc, évidemment, on accroît la mobilité, ce qui permet de justifier les fermetures, puisque les gens vont se déplacer pour aller retrouver les maternités, les écoles ou les bureaux de poste fermés. C'est bien cela qui se passe.
La question de la mort des services et la fermeture des écoles remonte loin. Le discours sur l'idée que la déprise se caractérise par la fermeture des lieux de vie remonte à l'entre-deux-guerres dans certaines régions et plus massivement à l'après-1945. Et déjà, on a effectivement ce discours des élus locaux, beaucoup, des maires, des conseillers généraux, des députés, des sénateurs, qui visent à dire la terre meurt parce que l'État s'en va, parce que l'État ne nous soutient pas, parce que l'État ne maintient pas les services publics. Et cette question est une question lancinante de l'aménagement du territoire depuis au moins les années 1960 sur le coût du maintien de populations à faible densité dans certains territoires. Et ça a donné ce fameux débat des géographes des années 90 autour de Jacques Lévy. Eh bien, faut-il oser le désert ? Faut-il accepter la fin de certaines formes de peuplement ?
Pierre-Marie Georges.
La preuve que ce débat est peut-être aussi un petit peu daté, c'est qu'aujourd'hui, il se renouvelle en des termes nouveaux, c'est-à-dire qu'on a une forme d'attractivité des espaces ruraux qui interroge doublement l'absence de services, puisqu'il y a effectivement la question des services pour caricaturer pour ceux qui restent, mais aussi pour ceux qui arrivent. La question, elle est aussi de la manière de se projeter dans une forme d'aménagement qui croit au développement de ces espaces ou qui n'y croit pas. La moindre des choses, c'est malgré tout de constater qu'on est dans une forme de rationalisation de l'action publique qui se base sur des statistiques et sur des chiffres en rapport à la population qui ne sont pas adéquates pour penser la question de la distance, etc. Et donc, effectivement, il y a un ressenti des élus locaux que je fréquente aujourd'hui fréquemment qui stigmatise cette forme d'abandon parce qu'effectivement, il y a le sentiment qu'on ne voit pas ce que c'est que la vie au quotidien et que 15 kilomètres depuis Paris, on ne le pense pas de la même façon que depuis la campagne. Donc, il y a cette forme d'inadéquation entre une restructuration qui ne cesse malgré tout de concentrer les services dans des pôles, qui n'est pas en adéquation d'une part avec la volonté de proposer une autre forme d'aménagement, mais d'autre part aussi par rapport au mode de vie des populations qui aujourd'hui sortent un petit peu de cette emprise des mobilités entre un centre urbain et une périphérie de loisirs et de logements.
On va le redévelopper longuement avec vous, Pierre-Marie Georges. Vous l'avez observé de près, ce qui se passe aujourd'hui que peut-être les politiques n'ont pas vu assez vite. Auparavant, quelques grandes dates avec vous, Pierre Cornu. La grande loi d'orientation agricole, 1960, les géographes, tout d'un coup, se trouvent devant une autre vision. On peut la rappeler brièvement? Et un grand ministre de l'agriculture, au passage.
Les grandes lois qui impulsent la modernisation de l'agriculture, en 1960 et en 1962, expriment en effet un tout nouveau volontarisme politique pour accélérer la modernisation du pays et faire en sorte que la production agricole devienne une part entière de la stratégie exportatrice de l'économie française. Il s'agit de sortir d'un modèle d'agriculture nourricière et de passer à un modèle exportateur. Et pour cela, il faut accélérer la modernisation parce qu'on se rend bien compte que les choses ne vont pas assez vite, que les successions se font dans la douleur et dans les problèmes familiaux insolubles, que le foncier est un casse-tête pour les jeunes agriculteurs qui veulent agrandir leur exploitation. Et donc l'État va retrousser ses manches, se mettre à la manœuvre pour accompagner la modernisation des structures agricoles. L'idée, c'est que, comme on est rentré dans le marché commun depuis 57, qu'on prépare une politique agricole commune, il faut que l'agriculture française soit prête à entrer dans la compétition quand le marché commun fonctionnera véritablement, ce qui va commencer, suivant les secteurs, autour de 67-68. Edgar Pisani...
c'est de lui que je voulais parler,
qui est grand effectivement ministre. Ce grand ministre de l'agriculture de Charles de Gaulle, va être un agent puissant de la transformation de la France agricole et rurale par le principe de modernisation et par une alliance avec les jeunes agriculteurs. L'idée, ce n'est plus la ruralité qui est au centre des politiques publiques, c'est l'agriculture comme secteur économique et ce sont les jeunes agriculteurs qui doivent être les fers de lance de la modernisation. Et il faut arriver à liquider, parce que les mots sont violents, à liquider l'héritage de la vieille civilisation agraire et d'une ruralité complexe, polyvalente, pluriactive. D'où, par exemple, l'une des mesures phares des lois de modernisation, l'indemnité viagère de départ, qui permet effectivement d'offrir une retraite digne, si possible un autre logement aux agriculteurs âgés, pour que les jeunes puissent s'installer, se marier et avoir un mode de vie qui soit plus proche de celui des urbains. Parce que l'idéal, c'est la parité des revenus. C'est l'équivalence des modes de vie. On cherche à aligner tout le monde sur des modes de vie de type urbain.
Au passage, cela fait aussi évoluer les recherches en géographie rurale. Ça modifie également votre métier de chercheur. Pierre-Marie Georges.
Les géographes s'attachent de plus en plus à cette question des modes de vie. Et c'est vrai que la ruralité elle-même aujourd'hui est pensée comme un mode d'habiter, c'est-à-dire que ça renvoie à des appréciations plus concrètes de ce qui fait le quotidien des gens et notamment dans leur parcours de vie, entre les allers-retours qui peuvent être observés entre les milieux urbains et les milieux ruraux.
Autre date importante, et là on arrive un peu à la question des désillusions au fond de cette modernisation que vous avez appelée à marche forcée, bien sûr c'est la crise économique des années 70, c'est les difficultés aussi de l'intégration européenne, encore une nouvelle phase pour la géographie rurale et surtout pour les populations rurales. Il faut encore une fois se remettre en question. Est-ce que c'est une date que vous jugez très importante aussi, Pierre Cornu?
La crise des années 70 est à la fois complexe et a un effet assez cohérent dans le monde rural. C'est un effet de désillusion, de désenchantement des décennies modernisatrices. On se rend compte que les acteurs du monde rural qui ont le plus joué le jeu de la modernisation sont ceux qui sont paradoxalement les plus fragilisés par la crise des années 70. Parce qu'ils ont investi, parce qu'ils ont des machines, parce qu'ils ont des ateliers, parce qu'ils ont des crédits à rembourser. Eh bien, la hausse du prix de l'essence, la crise de la consommation, la montée du chômage, ça les affecte directement. Ça les affecte dans un sens où les grandes promesses de la modernisation n'ont pas été tenues. Et puis, on n'a plus la soupape de sécurité de la migration vers la ville, puisque le chômage se développe dans l'industrie française, et que certaines populations rurales se retrouvent dans une trappe, où il n'y a plus de place ni dans l'économie agricole, qui a pris à peu près tout le secteur productif dans le monde rural, et le monde urbain n'a plus non plus de carrière, ni dans les services, ni dans l'industrie, à offrir à des jeunes peu diplômés, notamment en provenance du monde rural. Donc il faut réinventer, il faut bricoler. Et on assiste paradoxalement au retour de formes de pluriactivité, d'entraide, de débrouille, de nouveaux modes de vie qui vont s'inventer et qui débouchent sur ce que l'on voit aujourd'hui, hein, sur le secteur informel, sur des formes d'entraide qui permettent de tenir, sur des stratégies familiales de solidarité, parce qu'effectivement la crise, la société française n'en est jamais véritablement sortie depuis cette époque-là.
Et bien sûr, Pierre-Marie-Georges, vous nous voici arrivés avec, au passage d'ailleurs, les années 80, qui a quand même constitué une embellie, hein, les états généraux du développement 82, les politiques de décentralisation, je suppose, ont contribué à ce renouveau, à cette résistance, on peut peut-être l'appeler comme ça, du modèle rural. Pierre-Marie-Georges.
Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a l'impression de réinventer toutes les décennies, à chaque décennie, une nouvelle forme d'attractivité du monde rural. Les néo-ruraux, c'est un terme qui est utilisé dès les années 70 et aujourd'hui encore, c'est un terme qu'on utilise pour qualifier l'arrivée de nouvelles populations. Ce qui m'amène à dire que il y a un renouvellement, une forme d'attractivité qui se conjugue avec les difficultés rencontrées par les populations, mais qui se renouvelle année après année et qui caractérise cette recherche d'un mode d'habiter qui puisse permettre justement de construire sa vie sur des formes nouvelles d'entraide qui peuvent aussi déboucher sur de très belles initiatives et un développement économique pérenne.
Le paysage demeure du domaine de la culture, de l'art, de l'esthétique, du sensible, de l'imaginaire, de la symbolique, c'est-à-dire du flou et du fou. Et ça, il faut le préserver. Ce grain de folie, il faut le garder. Mais très récemment, il y a moins de 2 ou 3 décennies, le paysage est devenu très brutalement un outil de l'action territoriale. Et on est posé, on a utilisé le paysage un peu comme on utilise un outil. Donc il y a un problème d'instrumentalisation du paysage. Instrumentalisation n'est pas dans ma bouche un mot négatif, mais malgré tout ça pose un certain nombre de questions. Et ces questions, nous les avons tous en face de nous. Et entre ces deux pôles, le pôle culturel qui reste là fondamentalement celui du paysage, et un pôle d'action, il y a la méthode, il y a la recherche. Et cette recherche est incontestablement le maillon faible du système. We'll be right back.
Nous sommes dans nos géographies et nous parlons de la campagne, partir, rester, revenir. Et je suis en compagnie de Pierre-Marie Georges, le géographe, qui est en face de moi et qui a été très surpris par cette voix que nous venons d'entendre, mais qu'aura certainement reconnu Pierre Cornu, l'historien, car c'était sa demande. De qui s'agit-il, Pierre Cornu ?
Georges Bertrand.
Bien sûr, Georges Bertrand. Et pourquoi avez-vous choisi de nous le faire entendre ?
Pour l'historien du monde rural, Georges Bertrand, c'est un jalon vraiment intéressant de la coopération entre historiens et géographes. C'est celui qui a voulu apprendre aux historiens le sens profond de l'idée que le paysage a une écologie, qu'on ne peut pas se servir de la géographie simplement comme un décor, que la géographie n'est pas, comme à l'époque de Vidal de Lablache, simplement le tableau, le fond de tableau devant lequel les acteurs de l'histoire font le destin de l'humanité, que la géographie est une actrice aussi. Je fais partie de ces historiens qui ont entendu l'appel de Georges Bertrand à intégrer le paysage, l'espace, les plantes, les animaux, les formes anthropisées de nature dans la dynamique de l'histoire. Mais ce texte n'est pas passé comme une lettre à la poste. Hein. La manière dont Georges Bertrand, dans son introduction à l'histoire de la France rurale en 1976, a fait la leçon au possibilisme des historiens, a été un motif de rupture aussi pour certains. Et le vieux couple de l'histoire et de la géographie ne s'en est pas toujours bien remis hein, de cette crise, du resurgissement de la thématique de l'environnement et de l'écologie dans l'approche du monde rural notamment. Mais je pense qu'il reste important d'entendre cette voix, hein, puis cette très belle voix effectivement de Georges Bertrand, qui rappelle que le paysage c'est un objet ambivalent et qu'il a à la fois une réalité matérielle, sensible, mais aussi une dimension culturelle, symbolique, et que rester fidèle aux intuitions de la géographie, eh bien, c'est continuer à garder ces deux moitiés du grand partage, hein, la nature et la culture, et essayer de les penser ensemble.
Vous avez parlé d'environnement, d'écologie, et bien entendu c'est une composante très importante dans cette ruralité dont nous parlons ce soir. Et votre choix à vous, Pierre-Marie Georges, c'est Duke Ellington, qu'on vient d'entendre avec toujours du plaisir. Pourquoi ?
Oui, alors Pierre Cornu vient d'évoquer la thématique de la culture. Duke Ellington, c'est plus le morceau en lui-même qui m'intéressait, puisque c'est un morceau qui fait partie d'une composition qui s'appelle The Goutte la Suite, en référence à un séjour qu'il a passé dans les côtes du Forêt dans les années 60. C'est un exemple qui participe de ce qu'on a commencé à esquisser sur la nécessité de déconstruire l'idée d'un monde rural clos et replié sur lui-même. Duke Ellington est venu dans le Forêt à l'initiative d'un avocat lyonnais qui avait des attaches dans le Forêt et qui a mobilisé avec une énergie extraordinaire.
Le Forêt, vous le situez ?
Oui, dans la Loire.
Merci.
Qui a mobilisé à la fois des ouvriers et les paysans locaux autour d'un projet de reconstruction et de restructuration d'un château pour en faire un lieu culturel et d'animation du territoire assez remarquable, puisqu'aujourd'hui le château de Goutla est un lieu culturel remarquable dans la région. Donc cet exemple, il traverse les décennies qui nous intéressent peut-être aussi aujourd'hui, à savoir que le monde rural est fait de ces interactions multiples et complexes avec ce qu'on peut appeler le monde urbain, et qu'il s'agit de mieux valoriser ces interactions et qu'elles donnent aujourd'hui à voir une autre façon le monde rural.
Et c'est très important ce que vous dites là, Pierre-Marie Georges, et vous y tenez beaucoup. Je l'ai dit, c'était même un objet de votre thèse, c'est la présence de la culture. Et vous vous agacez un peu, encore une fois, de cette opposition ville-campagne. Pourquoi ? À la campagne, n'aurait-on pas les mêmes ambitions culturelles ? Et il faut signaler que les institutions y sont moins présentes, qu'il y a donc des initiatives, une innovation tout à fait remarquable et tout à fait dynamique dans le monde rural,
en
termes de culture.
On en revient encore une fois à la question des outils pour mesurer la présence d'équipements et la pertinence d'aménager le territoire de manière équilibrée. En fait, la vision centre-périphérie qu'on a critiquée tout à l'heure, elle se décline aussi dans la manière dont l'État pense ses équipements culturels. C'est essentiellement, avec l'idée de la démocratisation, une logique d'équipement qui part sur une logique descendante d'irrigation du territoire. Or, aujourd'hui, le monde rural est très actif d'un point de vue culturel, sauf que ça ne se voit pas, parce que, tout simplement parce que l'État n'a pas les outils pour mesurer cette forme de diversité qui s'appuie sur des acteurs multiples, qui s'appuie sur, moins sur la démocratisation que sur les formes de démocratie culturelle en appui sur les réseaux d'éducation populaire. Bref, on attend toujours aujourd'hui d'avoir de vrais indicateurs qui permettent de saisir cette diversité au-delà des seuls équipements culturels de l'État.
On aurait pu insister encore davantage sur cette présence de la culture, mais le temps nous presse un peu. Peut-être pouvons-nous compter sur l'agenda rural que propose le gouvernement, plusieurs propositions pour faire des campagnes des territoires d'avenir. Grande volonté du Premier ministre, vous avez porté des espoirs là-dessus.
Il se trouve que je suis impliqué directement sur ces sujets, mais c'est vrai qu'il y a une attente très très forte de la part des élus locaux pour que les normes évoluent et permettent de libérer la capacité d'initiative des territoires ruraux. On en revient à cette question d'aménagement du territoire pensé par la ville et pour la ville. Et aujourd'hui, beaucoup d'acteurs, que ce soit des acteurs des élus locaux ou des acteurs économiques ou des acteurs associatifs, souffrent d'un certain nombre de carcans administratifs qui empêchent de voir naître des initiatives. Or, pour faire le lien avec la question culturelle, on sait très bien que tout naît parfois de petites initiatives. Marciac, qui est aujourd'hui valorisé...
Festival de jazz.
Oui, on ne peut plus, part de pas grand-chose. Un espace qui m'est cher, l'espace rural d'art contemporain, du vent des forêts dans la Meuse, part d'une initiative individuelle avec la rencontre d'un élu. Bref, il faut libérer les énergies. Il y a beaucoup d'acteurs politiques et d'entrepreneurs qui, aujourd'hui, souhaitent s'investir en milieu rural et développer leur activité.
Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids, qui rentraient de voyage ou qui restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs.
Et notre séquence Être né quelque part, chanson célèbre de Maxime Le Forestier. Question que j'aime poser à mes invités. Pierre-Marie Georges, êtes-vous né quelque part? Est-ce important pour vous le lieu où venez-vous d'un lieu?
Oui, avec beaucoup de revendications et de fierté, j'aime à rappeler que je suis né dans les Vosges et que ça a forgé d'une certaine façon une forme d'attachement aux espaces ruraux. Mais une fois qu'on dit ça, on le dit de manière beaucoup trop rapide et c'est un lieu commun qu'on rencontre trop souvent pour laisser croire qu'on a compris les problématiques des uns et des autres. Il y a dans cette question quelque chose qui m'est beaucoup plus cher, c'est l'attachement au lieu. Je crois que aujourd'hui, et c'est ce qui redéfinit les formes d'appropriation nouvelles de l'espace rural, c'est cette sensibilité au lieu qui passe bien entendu par l'écologie, mais aussi par les paysages et les capacités d'interagir avec la société locale. Donc il y a une dimension de l'attachement qui est très importante dans votre réflexion.
Pierre Cornu, même question. Vous êtes né quelque part, bien sûr, mais est-ce important pour vous?
J'aurais plutôt envie de vous répondre que je suis arrivé quelque part. Bon, je suis né à Dijon en 1969. J'ai vécu dans un espace périurbain assez hybride entre la Côte des Vins, les champs de betteraves et puis des lotissements. Mais ma trajectoire a plus de signification sur le point d'arrivée, sur la découverte des hautes terres du Massif central dans mes tout premiers travaux d'étudiant, dans le fait que je me suis marié dans un pré du plateau Vivarot-Vélave et que, en ruraliste cohérent avec lui-même, je vis dans une commune de 850 habitants depuis presque 30 ans maintenant, avec des vaches sous mes fenêtres, une forêt, une rivière, un train à voie unique et puis des connexions à Internet assez intermittentes.
Une toute dernière question pour vous deux. Nous traversons cette période difficile de la maladie de Covid et nous sommes aussi dans une sorte de désir de campagne dont on entend beaucoup parler, un désir de nature peut-être plutôt. On y allait tout doucement, nous a expliqué Pierre-Marie Georges, on part tous à la campagne, croyez-vous, à l'après-Covid et un retour très significatif ou un départ vers la campagne? C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais...
Non, mais je crois qu'il faut être attentif à ces signaux, mais prendre le temps de l'analyse, de la même manière que Christophe Guillouis a peut-être été un peu vite dans ses conclusions par rapport au territoire périphérique, il avait pointé du doigt une part des difficultés rencontrées par les populations. Là, à l'inverse, et c'est ce qui illustre tout le paradoxe des campagnes contemporaines, c'est que à l'inverse, on est dans un mouvement positif d'attractivité, de revendication. Il y a cette ambivalence entre la manière qu'on peut être amené à lutter contre les inégalités territoriales qu'on a peu évoquées mais qui sont très prégnantes dans les territoires, mais aussi ce nouveau dynamisme et cette attractivité.
Pierre Cornu ?
Je ne serais pas capable de faire un discours de sciences sociales sur l'effet de la crise du Covid sur le rapport rural, mais je suis fasciné, en tant que simple habitant d'une commune rurale, de voir l'accélération des choses, la manière dont les gens se sont promenés dans le Massif central cet été, la manière dont les gens me téléphonent, me parlent, se mettent à rêver d'une résidence secondaire, le comportement de mes propres enfants, de mes amis. Je crois que les choses vont très très vite, qu'on est dans une période qui rebat les cartes. Et il sera fascinant de regarder comment les choses vont évoluer. C'est dramatique certes, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de tensions, mais je crois qu'on est dans une phase historique majeure où la question de la ruralité va se poser d'une manière radicalement neuve.
Merci infiniment à tous les deux. Merci à Pierre-Marie Georges, donc, qui avec Jean-Benoît Bourron a publié Les territoires ruraux en France. Et bien sûr, c'est un travail assez récent. À Pierre Cornu pour son travail tout à fait riche sur la géographie rurale française en perspective historique. C'est un travail paru en 2018. Je peux citer aussi Georges Bertrand pour vous faire plaisir. Pierre Cornu, la célèbre introduction à donc l'histoire de France, de la France rurale de 1976. Et aussi l'ouvrage de Benoît Coquart, Ce qui reste, publié aux éditions de La Découverte. Merci infiniment à toute notre équipe également, à Anne-Laure Chanel et à Marie Le Peintre qui réalisait notre émission ce soir. Également à Mathilde Racle de France Bleu Saint-Étienne, Loire, qui a reçu Pierre Cornu. Et bien sûr à Sandrine Chaperon et Catherine Donnet pour la préparation, la documentation. Nous avons beaucoup d'autres ouvrages à vous suggérer et nous serons bien contents de vous retrouver jeudi prochain dans nos géographies.